Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Vous pouvez nous réécouter n'importe quand, bien sûr, sur notre application, sur le web. Un autre sujet d'actualité et qui devrait vous intéresser vraiment parce que ça vous touche directement, et ce sont les compteurs intelligents. Vous savez que ça fait déjà presque 7 ans maintenant qu'ils sont installés. Ben oui, le temps passe vite, les amis. Ça fait depuis 2013, on a à peu près 4 millions de compteurs intelligents qui ont été installés par Hydro-Québec. Il y a plus de 70 000 clients, toutefois, d'Hydro, dont moi, qui ont refusé d'en avoir un puis qui ont décidé de garder leur vieux compteur qui n'émet pas de radiofréquence. Et là, tout le débat, c'est que les anciens compteurs fonctionnaient avec une technologie différente des nouveaux. Les nouveaux qu'on dit intelligents. Pourquoi sont-ils intelligents? Parce qu'en plus de lire votre consommation d'électricité, ils lisent toutes sortes d'autres affaires. Vous savez, c'est ça la technologie. Bouge pas, mais attends, donne-moi plein d'infos sur toi alors que tu le sais pas. Comprenez le concept? Moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien quand on me demande « Voulez-vous qu'on sache telle information sur vous? » Puis là, je peux dire oui ou non. Un compteur intelligent, donc, lit plein d'autres affaires. C'est surtout aussi la sensibilité qu'on peut avoir. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis électrosensible. » Et cette technologie des compteurs intelligents, je l'atroce pas, j'ai peur qu'elle affecte ma santé. C'est d'ailleurs la question que je vous pose. Ça fait presque 7 ans, est-ce que vous avez remarqué des changements dans votre santé? Il y a des gens qui le disent. Moi, je me sens pas bien depuis que j'ai des compteurs intelligents. C'est pour ça qu'il y en a quand même plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de gens qui ne veulent toujours pas en avoir. Et c'est fascinant parce que il suffit que le Québec ait parti ça pour que ça donne des idées à d'autres. Là, en ce moment, il y a Énergie Nouveau-Brunswick qui veut installer plus presque 400 000 compteurs intelligents. En Ontario, c'est déjà fait, mais savez-vous quoi? Ils ont eu des problèmes eux aussi. Fait que c'est pas simple. Quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, c'est Paul Héroux. Il est venu la semaine dernière nous parler de la technologie du 5G. Beaucoup de gens ont réagi là-dessus. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Merci beaucoup d'être là, Paul. On se parlait des compteurs intelligents l'autre jour, puis je me disais, il faut vraiment qu'on reparle de ça. Est-ce que vous en savez, vous, de cette technologie des compteurs intelligents après 7 ans d'expérience au Québec? Qu'est-ce qu'on peut conclure?
En réalité, les compteurs intelligents ne sont pas tellement différents d'un téléphone cellulaire. C'est plus ou moins des émetteurs GSM. Donc, ça, c'est une technique de transmission de données qui est relativement bien connue. Mais la différence, c'est que si une personne est électrosensible et ne veut pas s'exposer aux ondes électromagnétiques, elle n'est pas obligée d'avoir un cellulaire ou elle peut utiliser un cellulaire comme elle veut. Alors que dans le cas d'un compteur intelligent, ben, le plan, c'est de déployer ça dans toutes les maisons du Québec. Et il faut dire que le système fonctionne maillé, c'est-à-dire que tous les compteurs n'émettent pas la même chose, dans le sens qu'ils s'envoient des informations les uns aux autres, et vous pourriez avoir un compteur qui est beaucoup plus bavard que les autres, parce qu'il doit ramasser toutes les informations du voisinage. Donc,
Et quel genre d'informations? On parle de quoi, là?
Bien, pour le moment, on parle d'informations électriques périodiques sur la consommation. Mais finalement, un compteur intelligent tel que c'est présenté à la population, ça devrait émettre une fois par mois. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations que cela, pour toutes sortes de raisons, et il semble que ces compteurs-là vont devenir de plus en plus intelligents. Ils vont vouloir avoir de plus en plus d'informations avec la puce Zigbee, et essentiellement un compteur...
La puce Zigbee?
Oui, c'est une petite puce qu'on peut ajouter à l'intérieur qui va être partie de l'Internet des objets. Donc, les compteurs intelligents, tout comme les lampadaires intelligents de la Ville de Montréal, tout comme le 5G, ce sont des systèmes de cueillette de données. Et tout ça se déploie sans qu'on vous demande la permission. Mm-hmm. Ce que vous disiez, Mme Maréchal, est très, très à point, c'est que vous êtes prête à partager l'information pourvu qu'on vous demande la permission. Mais le plan de l'ingénierie, ce n'est pas de vous demander la permission, c'est de procéder et de voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez protester ou non?
Mm-hmm. Bien, il y a 70 000 personnes qui ont protesté, qui ont dit, hey, moi, là, regarde, touche pas à mon compteur. Il y a eu, je me souviens du fameux réseau... organisé, là, refusons les compteurs. Amir Kadir est intervenu pour dire, ben oui, puis les frais, parce qu'ils nous ont chargé des frais, là. Oui. Et c'est un peu pour ça que Hydro-Québec s'est défendu, dit, parce que moi, depuis l'automne dernier, puis je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui ont reçu la même lettre de la part d'Hydro, c'est que là, avant, ils lisaient nos compteurs traditionnels. Pour 2,50 $ à peu près par mois, il y avait un gars d'Hydro qui venait, il lisait le compteur. Puis, on était donc, notre consommation et donc notre facture était basée là-dessus, sur cette lecture. Là, ils veulent plus envoyer des gens parce qu'ils disent, envoyer un travailleur d'Hydro lire le compteur, ça coûte trop cher. Puis, ce que les gens payent, ça a l'air que ça coûte 15 millions puis que ce qu'on paye, c'est 13 millions pour envoyer des travailleurs de l'Hydro lire nos compteurs. Fait qu'ils disent, là, on lit plus, vous lisez vous-même. Sauf qu'ils nous ont proposé, moi, ils m'ont proposé des plages. J'imagine que d'autres ont vécu ça, vous me direz ça. C'est des semaines. Alors, tu as, mettons, là, du 20 janvier au 28 janvier, tu peux lire ton compteur. Si tu le lis pas parce que tu oublies, puis bon, parce qu'on travaille pas pour Hydro non plus, là, tant que ça, un peu quand même, ben c'est eux qui vont considérer, ils vont évaluer ta consommation. C'est bizarre, mais moi, ma consommation, elle a vraiment beaucoup augmenté depuis cette depuis les compteurs intelligents, en fait. Pas parce que j'en ai un, mais parce que ça a donné ça. Et j'ai moins de personnes qui vivent à la maison et je prends pas plus de bains par jour que j'en prenais avant. Fait,
mais quand maintenant, on dit que c'est... les compteurs intelligents peuvent facturer la puissance réactive.
C'est-à-dire, en français...
la puissance réactive, c'est de l'énergie qui oscille entre votre, je dirais, votre ordinateur et qui retourne dans le réseau. Et ça, ça fait une consommation, ça fait une circulation de courant. Les anciens compteurs ne pouvaient pas lire ça. Mais je crois que la politique actuelle d'Hydro, c'est de facturer 80 % de la puissance réactive. Donc, si vous avez un laptop de brancher sur le réseau, mm-hmm. si on facture 80 % de la puissance réactive, vous allez avoir, presque le double de la facture. Donc, ça donne la possibilité à l'Hydro d'être beaucoup plus fin vis-à-vis de la facturation. Et ultimement, il va voir la facturation en fonction des plages de temps. Donc, à certaines heures, le prix du kilowattheure va augmenter. Donc, il y a toutes sortes de possibilités intéressantes et qui sont, je dirais, intéressantes du point de vue d'un réseau électrique. Mais il y a également toute la section Zigbee qui est de l'acquisition de données de chez vous qui est prévue. Ouais. Et finalement, ce qui est le plus monnayable, je pense, pour les entreprises qui veulent cueillir des informations chez vous, c'est pas la fonction qui est déclarée, comme c'est pas les luminaires de Montréal, c'est pas de lire les compteurs, c'est toutes les autres choses qu'ils vont faire avec.
Mmh. L'impact sur la santé, est-ce que c'est important ou c'est marginal? Est-ce qu'il y a des études? Paul Héroux, vous êtes un professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Vous enseignez la toxicologie, les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Est-ce que c'est documenté, l'impact de ces ondes-là sur la santé humaine?
On sait très bien que c'est le cas. Si vous pouvez croire que recevoir un coup de poing, c'est la même chose que de prendre une marche, peut-être que vous allez croire l'industrie en disant qu'on fait la moyenne des champs en fonction du temps et ça ne vous échauffe pas. Le problème des ondes qui sont émises par les cellulaires et par les compteurs intelligents, ce n'est pas une question de chaleur. Il y a personne qui s'inquiète ou peu qui s'inquiète de ça. En réalité, le problème, c'est les réactions biologiques aux impulsions rapides qui sont émises par ces compteurs-là.
Parce que des ondes, je veux dire, on a tous appris dans nos cours de physique qu'on était entouré d'ondes, mais c'est pas les mêmes ondes, c'est ça?
C'est ça. À un moment donné, l'ingénierie a décidé que pour maximiser la capacité de transmission des ondes électromagnétiques, des porteuses, on va envoyer ça par paquet d'impulsions. Mmh. Donc, on va concentrer toute l'information dans des groupes d'impulsions qui sont extrêmement brefs dans le temps. Ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit la puissance qui est consommée parce que dans le cas d'un téléphone cellulaire, il n'y a pas besoin d'émettre de manière continue. Il émet juste par petites impulsions. Mmh. Mais ces impulsions-là sont physiologiquement... l'organisme obéit davantage à ça qu'aux ondes traditionnelles du AM ou du FM.
Mm-hmm. Donc, est-ce que les 70 000 clients d'Hydro là, qui ont refusé d'avoir un compteur intelligent, est-ce que vous estimez qu'ils se sont protégés d'une certaine façon par rapport aux autres?
Je suis persuadé. C'est peut-être des gens qui avaient peur de la fuite d'informations de leur demeure vers... une entreprise. C'est peut-être des gens qui avaient peur des radiations, mais il y a un bon nombre de gens qui réagissaient à ces radiations-là, qui se sont battus pour avoir des compteurs classiques, qui n'émettaient aucune radiation.
Mmh. Mais en même temps, il y a tellement de choses. Moi, je me souviens à l'époque, puis je m'étais assez plainte parce qu'ils avaient changé mon compteur sans me demander ma permission.
Oui,
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait un peu surprendre. Quand on parlait des compteurs intelligents, c'était comme « Oh mon Dieu, trop tard, ils l'ont déjà changé ».
C'est pas dans la tradition de l'ingénierie d'être très préoccupé par les aspects humains d'une nouvelle technique. Les ingénieurs sont préoccupés par qu'est-ce que la technologie nous permet de faire. Et c'est très secondairement, je dirais, envisager les détails des expositions humaines ou comment ça va être accepté par les individus.
On a Joe qui nous écoute. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez des compteurs intelligents, vous, Joe? Est-ce que vous en avez un d'abord?
Non, moi, j'ai refusé et on nous informe de tout autre que la vérité. Et je m'explique. Un micro-ondes fonctionne à 300 MHz qui cuit de la viande. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une fourchette dans le micro-ondes? Ça fait des étincelles, ça brûle. Mm. Un compteur intelligent et le 5G fonctionne à 800 MHz, plus que le double. Et avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, de l'intoxication de métaux lourds qu'on a dans notre viande, dans notre corps, qu'est-ce qui va se passer quand tous ces rayons-là, ils vont nous impulser? On va cuire de l'intérieur. Mm. Et c'est pas des fabulations, là, c'est des faits.
Mm. Paul Héroux, est-ce que ça marche comme ça?
Mais effectivement,
les
ondes électromagnétiques ont tendance à générer des radicaux libres. Et les radicaux libres, dans le fond, hypothèquent notre résistance à toutes sortes d'ingrédients toxiques, y compris les métaux lourds en particulier. Donc, les gens qui sont plus hypothéqués du point de vue physiologique, qui ont moins de défense contre les radicaux libres, sont plus susceptibles d'être affectés par les compteurs intelligents.
Puis on a parlé, par exemple, de maladies chroniques que ça pourrait générer. On parle de diabète, d'Alzheimer, de Parkinson. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent ça? Ou est-ce que c'est... J'imagine que ce n'est pas facile non plus de faire le lien. J'essayais de trouver des recherches là, qui étaient très affirmées sur la question. Puis il y en a beaucoup aussi qui sont payées par l'industrie. Mm-hmm. Donc, c'est difficile de vraiment savoir de façon affirmée, oui, en effet, c'est très mauvais. Tout, surtout quand le gouvernement, Hydro-Québec, c'est le gouvernement, quand le gouvernement décide d'imposer des compteurs intelligents, on pourrait espérer qu'ils aient fait leur devoir avant et de ne pas mettre en péril la santé de leurs citoyens. Donc, nous, individus comme ça, tout seul à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour être rassuré? C'est surtout ça. Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus ou il faut... Comment ne pas s'inquiéter pour sa santé? C'est un peu ça, finalement.
En réalité, le processus qui mène à une réponse très nette vis-à-vis de la nocivité d'un agent, comme par exemple la cigarette, ça prend beaucoup de temps. Il y a toujours une longue discussion. Et les entreprises peuvent être plus ou moins, je dirais, prudentes vis-à-vis de ce qu'elles font. Et dans ce cas-ci, moi, je crois que Hydro-Québec et d'autres organisations importantes pourraient utiliser des techniques différentes pour transmettre des données. Moi, ma spécialité, c'est l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé, et je crois que c'est une mauvaise technique, une mauvaise politique publique que d'imposer des radiations électromagnétiques à la population. Les gens devraient avoir le droit de ne pas être exposés aux radiations s'ils ne veulent pas, et les gens devraient avoir le droit de protéger leur information s'ils ne veulent pas la partager.
Wow, ça c'est très clair, Paul Héroux. En même temps, Hydro vous ont pas contacté, vous, il y a plusieurs années?
Non, je pense que c'est pas quelque chose qui est sur leur radar. Vous savez, c'est un débat très important jusqu'à quel point on doit accepter ce que des entreprises extérieures peuvent nous imposer. Socrate, le philosophe grec, était le champion de l'individualité. Et avec les développements technologiques, on est en train de restreindre l'autorité de l'individu sur sa vie de manière extrêmement prononcée. Finalement, on peut devenir essentiellement des fourmis dans un système.
Complètement. Mais on nous vante les mérites de ces technologies-là. Puis sans doute qu'elles en ont. Là. Elles en ont aussi qui nous aident à mieux vivre. Mais c'est toute la question, sous une question de sécurité, souvent on va nous dire c'est pour votre sécurité. Là, c'est rendu qu'il y a des caméras à tous les coins de rue. Là.
Oui.
Les fameux lampadaires Dell, moi, ils en ont posé un en face de chez nous. Je vais être obligée de m'acheter des rideaux parce que c'est rendu quasiment... Il n'y a plus de noirceur, on dort plus. Après ça, on se dit, comment ça fait que le monde est anxieux? Mais c'est parce qu'ils ne dorment plus. Pourquoi ils ne dorment plus? Il fait plus noir dans la vie. Le noir n'existe plus. Nous sommes toujours éclairés par une source qui vient de quelque part, une source lumineuse. Ça, c'est fatigant, ça. C'est le même principe, finalement. Le DEL, les lumières, les lampadaires. Là.
Effectivement, ce sont des lumières qui n'ont pas nécessairement de vertus thérapeutiques.
Est-ce que ça émet des ondes électromagnétiques?
Bien, la lumière, c'est une onde électromagnétique, mais ce qu'on sait de la lumière, c'est qu'à différentes températures, en quelque sorte, là, ont des effets physiologiques différents et qu'on est plus tolérant vis-à-vis des lumières qui sont plus jaunes que des lumières qui sont plus bleues. Donc, si on regarde la littérature, les lumières plus bleues ont tendance à altérer la santé de manière négative. Donc, toutes ces choses-là qui sont déployées, en général, le déploiement est déterminé par la capacité technique de le faire et le gouvernement ou les autorités sanitaires sont très en retard vis-à-vis de leur examen. on intervient beaucoup plus tard, ça nous prend des décennies avant de reconnaître, par exemple, que les téléphones cellulaires sont cancérigènes, comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle.
Oui, mais ça, il y a tellement de gens qui travaillent fort pour que la phrase que vous venez de dire ne soit pas crue.
C'est vrai, mais c'est inévitable. Je lisais justement ce matin que le docteur Lin, qui est le président de la Société de bioélectromagnétique, qui est un ancien membre de l'ECNIRP, qui supportait les standards thermiques, est en train de changer d'avis et essayer d'introduire cette notion-là que les ondes électromagnétiques sont cancérigènes chez les ingénieurs. Mais c'est une tâche à long terme de faire réaliser toute cette industrie-là qu'ils devraient faire les choses différemment.
Merci beaucoup, Paul Héroux. Vous restez avec nous, bien sûr. Je vous rappelle que Paul Héroux est professeur à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Il est spécialisé en ondes électromagnétiques. Il s'intéresse à la toxicologie, aux effets sanitaires de ces ondes. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je vous donne nos numéros à nouveau, 514-790-9850. À l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Ça vous inquiète, ces ondes électromagnétiques qui nous arrivent de tous bords, tous côtés, surtout avec les compteurs intelligents? Est-ce que vous en avez acceptez-vous de ces compteurs chez vous? Est-ce que vous avez mesuré les effets depuis 7 ans là, qui ont été installés au Québec? On vous écoute tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. On a Billy avec nous. Bonjour, Billy. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, des compteurs intelligents, des ondes électromagnétiques que ces compteurs peuvent générer et surtout leur impact sur votre santé?
Oui, bien, plus j'écoute votre émission, je commence à être inquiet par rapport à ça. Moi, j'ai 2 compteurs qui sont situés dans le sous-sol. J'habite un appartement avec sous-sol.
Ouais.
Et puis, les 2 compteurs sont situés sous notre chambre, directement sous notre chambre à coucher. Et je veux dire, il y a un plancher de bois qui sépare, là. C'est pas. Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de protection. Puis, je me demandais s'il y avait un recours qu'on pouvait avoir contre le propriétaire ou, pas nécessairement contre, mais lui faire payer une espèce de bouclier qui pourrait nous protéger des ondes.
Il y en a qui disent que le papier d'aluminium, ça marche, mais je ne sais pas, Paul Héroux, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont le compteur collé sur leur oreille. Là.
Effectivement, les micro-ondes qui sont émises par des compteurs intelligents, c'est pas très difficile à blinder. Effectivement, un simple papier d'aluminium peut être un réflecteur efficace. Naturellement, ça peut également influencer la fonction du compteur intelligent, mais la manière dont c'est fait, probablement que l'intensité du compteur est beaucoup plus intense que nécessaire. Donc, peut-être l'essayer de mettre une plaque métallique ou un feuillard d'aluminium pour voir, pour contrôler si c'est efficace, il faut naturellement avoir un petit appareil pour mesurer les micro-ondes.
Et ça, c'est quoi comme appareil? Est-ce qu'on peut s'acheter ça pour voir?
Maintenant, il y a des bons appareils qui sont vendus, qui sont aux alentours de 150 à 200 $, qui mesurent pratiquement tous les types de radiation dans l'environnement. Donc, un individu pourrait... Il y a même des endroits où les bibliothèques en ont à prêter aux individus.
Ah oui? Oui. Comment ça s'appelle? Si on veut demander ça, mettons, notre...
Ben, il y a des compagnies comme Cornet ou GQ aux États-Unis qui font des... Puis naturellement, il y a beaucoup de nouveaux développements là-dedans et ces appareils-là s'améliorent grandement avec le temps et baissent de prix. Maintenant, on a des appareils relativement sophistiqués qui coûtent relativement peu. Je peux vous envoyer les liens pour ces appareils-là si ça vous intéresse.
Oui, puis je les mettrai sur mon Facebook parce que je pense que les auditeurs sont friands de conseils comme ça. Parce que, bon, une fois qu'on a compris puis conclu qu'on nous l'impose, souvent cette technologie. Donc après, c'est à nous de, bon, comment on peut se blinder, vous dites se parer ou enfin se blinder, se protéger un peu finalement de ces ondes-là. Une chose est sûre, c'est que ça inquiète beaucoup les gens. C'est pas une campagne de peur qu'on fait, là. Il y a Gaëtan qui dit « Arrêtez de propager la peur ». Et il dit « Partout sur Internet, il y a plein d'organismes très sérieux, scientifiques, qui sont d'accord pour dire que l'électrosensibilité n'existe pas ». Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'étaient, électrosensibles. Vous en pensez quoi, vous, Paul Héroux?
J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des gens, je dirais, extrêmement éduqués, qui sont arrivés à leur propre diagnostic d'électrosensibilité par élimination. Souvent, ça a pris des années avant qu'ils se rendent compte qu'ils sont effectivement électrosensibles. Et donc, ce n'est pas un mythe. Et dans certains pays, l'électrosensibilité est reconnue comme un handicap. Donc, on doit au travail protéger ces employés-là. Donc, c'est un bobard de l'industrie qui veut se cacher vis-à-vis de cette réalité-là.
On a Nathalie avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Nathalie.
Oui. On parle beaucoup des ondes électromagnétiques. Je me pose aussi des questions. Les maisons qui sont situées proches des gros pylônes électriques, avant, on avait une bonne distance. De plus en plus, ils construisent des maisons à peine à 25 mètres ou 50 mètres. Puis moi, j'ai beaucoup de maisons. Puis je me questionne si ça peut être dangereux pour la santé.
Paul Héroux là-dessus. Merci, Nathalie.
Ben les lignes de transmission, en fait... propagent autour d'elles des champs magnétiques de basse fréquence qui ont été reliés par l'Agence internationale de recherche sur le cancer en 2002 comme étant reliés à la leucémie infantile. Mais les mécanismes qui permettent d'arriver à cette conclusion-là nous permettent de penser, dans le fond, que d'autres cancers pourraient être affectés. Donc, il y a un problème là, effectivement, relativement aux lignes de transmission et des niveaux de champs magnétiques. Et encore là, on peut contrôler notre environnement en regardant quel est le niveau de champs magnétiques autour dans notre maison. Et je pense que dans l'avenir, de plus en plus, les gens qui vont acheter des maisons vont vouloir connaître la valeur du champ magnétique dans la propriété qu'ils vont acheter.
Ah oui, et ça, c'est presque pas mesuré, là, à moins d'avoir nous-mêmes un appareil comme ceux dont vous nous avez parlé. Là.
Mais les appareils deviennent de plus en plus communs et répandus. Ouais. Donc, je pense que le fait que les appareils sont disponibles va changer beaucoup la donne.
Ah, mais moi, je vais m'en acheter un, en tout cas. Oui. Franchement, là. On a Luc avec nous. Bonjour, Luc.
Bonjour. Moi, j'aurais besoin d'informations. Moi, je me suis débarrassé du téléphone Vidéotron du whatever. J'étais avec Ouma Tello. C'est un système téléphonique qui fonctionne avec l'Internet. Là, souvent, c'est des possibilités de danger par rapport à l'Internet. Versus un combiné que tu branches seulement dans la prise de courant si c'est émis par le Wi-Fi. Y a-t-il des dangers par rapport à l'appareil sur l'oreille ou quelque chose comme ça?
Ben, si c'est un appareil qui est sans fil, naturellement, il communique à travers des ondes électromagnétiques. Donc,
ça revient aux mains.
Ça revient aux mains.
Voilà la réponse.
Ça m'apparaît comme le cellulaire, là, au fond.
Ben, en réalité, un cellulaire, ça peut communiquer avec une station de base qui peut être relativement éloignée. Ça peut être à 2 km. Alors, si ça transmet seulement vers une base Wi-Fi spécialisée, peut-être que les radiations sont moins puissantes. En fait, plus on restreint la distance qu'on a à couvrir, les distances plus courtes, on peut émettre des ondes électromagnétiques plus petites.
Il y a Ronald qui pose la question. Il dit, bon, mon lit, ma tête, la tête de son lit, sa tête de lit est à moins de 5 pieds de son compteur intelligent. Il demande si c'est dangereux.
Très mauvaise idée. Ultimement, ce genre de situation-là peut mener cette personne-là à développer des symptômes et de l'hypersensibilité.
Ben, j'aurais aimé ça, Ronald, que vous me disiez si vous vous sentez bien depuis 7 ans. Est-ce qu'on peut demander, d'après vous, là, on peut-tu demander à Hydro de déplacer le compteur?
Ben, ce qu'ils vont vous répondre, c'est que vous devez assumer les coûts.
Ça ne doit pas coûter 2 piastres en plus, ça?
C'est ça.
Ouais. On a Martin qui a une question rapide. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Moi, je suis chauffeur d'autobus pour la STM. J'avais une question pour Paul Héroux, là, concernant les nouveaux e-bus qui ont été installés récemment dans les autobus. Là, moi, ça me fait peur un petit peu. Là, je sais que ça fonctionne justement avec l'Internet, avec les réseaux cellulaires. Je voudrais savoir est-ce que effectivement j'ai raison de m'inquiéter de ça. Puis est-ce que l'employeur doit nous garantir un contexte de travail sain, finalement, par rapport à ça?
Ben, effectivement, est-ce qu'on vous a remis un rapport détaillant le niveau dans un autobus? Parce qu'un autobus est relativement métallique, donc c'est une caisse de résonance pour ces ondes-là. En fait, si par exemple vous avez une voiture avec 5 passagers qui utilisent leur téléphone cellulaire, vous pouvez me croire que l'irradiation, l'exposition est très, très substantielle. Puis effectivement, dans les transports en commun, c'est un problème réel. Le fait que vous avez beaucoup de passagers qui vont émettre avec leur téléphone cellulaire et que vous, comme conducteur, vous êtes en permanence dans un milieu comme ça. Donc, il y a un travail d'hygiène à faire peut-être pour vous protéger vis-à-vis de ces émissions-là.
Ah ben. Eh bien, c'est une très bonne question, Martin. Ça nous fait réfléchir à tout ça. On ne se rend pas compte. C'est surtout aussi peut-être de l'ignorance de notre part où on prend pour acquis qu'il y a plus de bénéfices que de désavantages. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On est tous là à se dire, mon Dieu, on se plaint beaucoup qu'il n'y ait pas le Wi-Fi, par exemple, dans le métro de Montréal. Mais c'est vrai que s'il l'avait, ça sous-entendrait qu'il y ait plus d'ondes aussi, donc plus de radiation. Il y a Louise qui dit elle a porté une montre Fitbit, enfin, ces fameuses montres qui aident à connaître ses... Bon. toutes sortes d'informations sur le fait de faire de l'exercice, le cœur et tout. Elle dit, je me suis rendu compte, ça me causait des douleurs au poignet, dans la main, comme si mon nerf était atteint. Ça a cessé dès que j'ai arrêté de la porter. Est-ce que c'est plausible, ça?
Pas surpris du tout. En réalité, il y a des gens qui réagissent à ça et tous les gens ne sont pas...
électrosensibles.
Ne sont pas électrosensibles, mais on sait qu'il y a des variations génétiques qui augmentent par un facteur de 10 les chances qu'une personne soit électrosensible. Donc, en réalité, ce sont des réactions absolument attendues, ce genre d'observation-là.
Merci beaucoup, Paul Héroux, de nous renseigner là-dessus. Le fait d'être un peu inquiet, ben ça peut nous aider à être au courant un peu plus de la situation, de faire attention au monde qui nous entoure. Puis on va peut-être... Donc, papier d'aluminium, ça peut marcher.
Oui.
On se souvient de ça. Et il y a des appareils qui peuvent mesurer donc les niveaux de radicaux libres qui nous entourent. Merci beaucoup. Paul Héroux est prof à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Il enseigne la toxicologie et les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission comme bon vous semble grâce à notre site Internet et notre application Cogeco. Dans deux minutes, bougez pas personne, c'est notre entrevue sans filtre. Et je reçois le comédien Benoît McGuinness qui est avec nous.